Nous sommes à l'aube d'une révolution sans précédent.
Ah, je savais que j'aurais dû en acheter il y a 5 ans.
C'est pas utilisé par les criminels, ça?
L'impact environnemental est loin d'être négligeable.
Prépare une ICO qui va tout révolutionner.
Ça va jamais marcher, en fait.
21! 21 millions, millions, millions.
Bienvenue dans 21 millions, l'émission Crypto-Pédago qui vous explique simplement le monde passionnant des crypto-monnaies et de la blockchain. Je suis Grégory Raymond, crypto-journaliste pour le magazine Capital. Aujourd'hui, j'ai eu envie de m'attaquer aux cryptos qui ont l'ambition de révolutionner le secteur bancaire. Alors quand je vous dis ça, je ne pense pas du tout au Bitcoin car son protocole est davantage conçu pour s'en servir comme une réserve de valeur numérique. Je fais surtout allusion à des projets comme Ripple, Stellar ou le JP Morgan Coin, une crypto présentée début février par la toute première banque américaine et qui entend bouleverser le transfert de fonds. Alors pour parler de tout ça, je suis ravi de recevoir Mark Zeller qui est analyste pour le courtier CoinHouse et qui connaît ce sujet sur le bout des doigts. Derrière les crypto-monnaies bancaires, il y a la volonté de régler un problème récurrent. Envoyer des devises à l'étranger, ça met longtemps et surtout, ça coûte très cher. Il faut des chambres de compensation, de multiples intermédiaires. C'est donc là que la technologie blockchain débarque pour remplacer les modèles existants. Mais la révolution bancaire viendra-t-elle vraiment de là? Les investisseurs du Ripple ne sont-ils pas un petit peu abusés par la start-up qui le développe et dont le patron a été un temps plus riche que Mark Zuckerberg lors de la bulle des cryptos? Et les banques dans tout ça? Ont-elles vraiment un intérêt à basculer dans la blockchain alors qu'elles utilisent déjà de robustes outils? C'est ce que nous verrons dans cet épisode de 21 millions que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter. Alors bonjour Mark Zeller, bienvenue dans 21 millions.
Bonjour.
Alors vous êtes analyste pour le courtier spécialisé CoinHouse et est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement en quoi consiste votre métier?
Alors j'ai trois grands axes. Le premier axe, c'est le plus visible pour le public, c'est CoinHouse Insight, notre plateforme avec des articles d'analyse à la fois à chaud en réaction sur les événements de marché et à froid plus sur des analyses de fonds. Le deuxième volet, c'est que je suis une ressource disponible pour notre clientèle premium, puisque nous avons des investisseurs qui représentent un certain portefeuille et qui sont à la demande d'analyse personnalisée. Et c'est un service que CoinHouse met en place. Et le troisième volet, c'est que CoinHouse est aussi dans le marché des formations et des workshops, des meet-up. Et je participe à la création de ces choses-là.
Quand vous analysez une crypto, quels sont les critères sur lesquels vous vous basez pour établir qu'elle a du potentiel ou non?
Alors, que ce soit pour nous ou en général, il faut bien comprendre qu'il faut distinguer la crypto se base sur quelque chose qui est relativement différent des marchés traditionnels, c'est-à-dire qu'on peut avoir une technologie, un produit et un service qui est de qualité, mais les cryptos ont aussi des cryptoactifs, c'est-à-dire des tokens, que ce soit des ERC-20 sur Ethereum ou des tokens natifs comme le Bitcoin par rapport à la blockchain Bitcoin. Et parfois, c'est des choses très différentes. Un projet avec une équipe extrêmement compétente et qui a un avenir peut avoir un token qui n'a aucun intérêt économique. Et il y a pas mal de suite à la vague des ICO, il y a pas mal de tokens qui tombent dans cette catégorie. Et malheureusement, les investisseurs, s'ils ont peu l'habitude de ce marché, peuvent souvent tomber dans le piège en se disant: c'est un projet formidable, l'équipe est formidable, il y a des produits qui sont... Donc je vais investir là-dedans. Nous, notre métier, c'est de distinguer ce type de choses. Vraiment distinguer le projet de la crypto-économie. Et ça va rentrer dans nos critères d'analyse.
Et maintenant, venons-en à notre sujet du jour, c'est-à-dire les crypto-monnaies destinées au secteur bancaire. Alors, la plus connue est certainement le XRP, aussi appelé Ripple, car c'est le nom de la start-up californienne qui le développe. Actuellement, c'est la troisième valeur du secteur crypto et sa capitalisation tourne autour de 13 milliards de dollars. Est-ce que vous pourriez nous présenter cette crypto et nous dire à quoi elle sert vraiment à part à spéculer?
Leur proposition de valeur telle qu'ils la décrivent, c'est transférer des fonds entre les frontières ou en général de manière plus rapide et moins chère. Le système bancaire actuel repose sur une technologie assez ancienne, très centralisée, qui est à la fois lente et chère. On s'en rend peu compte en Europe puisqu'on a le système SEPA, qui est la zone de paiement unique européenne. Donc faire un virement pour un Français, même à l'intérieur de l'Europe, ça coûte peu cher et c'est relativement rapide. Surtout avec des choses comme le SEPA Instant qui commence à arriver, on appelle ça virement instantané en France, qui permet de faire des virements en quelques secondes. Donc on s'en rend pas compte, mais la France n'est pas le monde. Et quand on quitte les frontières de l'Europe, on se rend compte que transférer de l'argent, ça coûte très cher, c'est très lent et c'est complexe. Ripple Labs va s'orienter sur deux propositions de valeur. La première, ça va être Xcurrent, qui est vraiment le produit qui va s'attaquer à Swift. Et je pense qu'on va en parler.
On en parlera après.
Et Xrapid, qui est la proposition de settlement, de compensation sur des échanges de devises, et qui, elle, peut utiliser éventuellement le XRP. Aujourd'hui, l'utilisation du XRP par le secteur bancaire, en dehors de proof of concept, en dehors de prototypes et d'échanges de type laboratoire d'idées, est relativement faible, voire inexistante. C'est-à-dire qu'il y a des réels partenariats entre Ripple et des acteurs de premier plan du secteur bancaire, mais aujourd'hui, la Société Générale, pour ses échanges à la BNP dans un autre pays, ne va pas utiliser le XRP.
D'accord. Alors, le développement de Ripple a été un peu chaotique. Alors, quelques banques ont bien réalisé des tests sur sa technologie, mais aucune structure d'importance ne s'est vraiment laissée séduire. Qu'est-ce qui empêche donc les banques d'adopter la technologie Ripple une bonne fois pour toutes ?
Parce que, est-ce que c'est la situation est forcément problématique pour elles ? Est-ce que la proposition... Ce qu'il faut bien comprendre pour le secteur bancaire, c'est qu'adopter une nouvelle technologie, ça a un coût énorme puisqu'il faut adapter les infrastructures, adapter les process. Il y a des questions régulatoires qui rentrent en ligne de compte, légales. Les banques sont un acteur que je qualifierais avec une forte aversion au risque et tout ce qui s'est passé dans l'histoire récente bancaire avec les amendes sur des montants qui ont fait plutôt l'actualité renforce cette aversion au risque des banques. C'est qu'il y a eu des événements et ils en ont payé le prix. Et du coup, adopter quelque chose, pour elles, ça ne doit pas être un peu mieux, ça ne doit pas être vraiment mieux, ça doit être énormément mieux. Pour justifier de changer les choses. Et même d'un point de vue informatique, si on regarde l'infrastructure logicielle des banques, on est sur des choses qui datent d'une autre période, voire d'un autre siècle. Et pourtant, si ça marche et que c'est fiable et que c'est robuste et que ça ne pose pas de problème légal, pourquoi changer ?
Alors justement, on parlait juste avant de Swift. Hein. Alors les banques utilisent actuellement ce protocole pour faire des virements internationaux. Et vous le disiez, hein, quiconque a déjà essayé d'envoyer de l'argent à l'étranger a pu constater que c'était très long. Alors, en se basant dessus, c'est vrai que la promesse de Ripple est séduisante, mais ça semble dingue que Swift attende là sans rien faire. Est-ce qu'eux aussi ne seraient pas en train de travailler sur une solution crypto ou blockchain pour ne pas perdre ce marché ?
Alors, à ma connaissance, non. Mais je ne suis pas un spécialiste de Swift. Swift, il faut simplement comprendre que c'était un peu la blockchain avant la blockchain. C'est vraiment un registre distribué, par essence centralisé. On est sur une société de droit privé enregistrée en Belgique, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier. Il faut comprendre que la lenteur de Swift est relativement artificielle. C'est-à-dire qu'il existe des moyens pour les banques d'accéder de manière plus rapide à des transferts, en dessous d'une heure, en dessous d'une demi-heure, parce que le système standard n'est pas forcément le système d'échange monétaire interbancaire. C'est-à-dire ce que les gens voient, ce que l'utilisateur final, la personne, n'est pas forcément, elle n'a pas accès aux mêmes conditions que l'acteur bancaire. Et c'est relativement artificiel, et si ça posait réellement problème, je pense, et on a la preuve en Europe avec le SCP Instant, qu'on appelle virement instantané, que c'est relativement facile à mettre en place. D'autant plus que c'est plus facile à mettre en place dans une infrastructure centralisée que décentralisée.
D'accord. Et j'aimerais faire un petit point sur la communauté Ripple qui est extrêmement agressive sur les réseaux sociaux. c'est assez singulier car être investisseur dans le XRP de Ripple, c'est un peu comme si on devenait supporter d'un club de foot et qu'on était prêt à tout pour le défendre et parfois même un peu avec mauvaise foi. Pour certains, je dirais même que c'est presque du hooliganisme à la mode crypto. Comment on peut expliquer ce comportement ?
Déjà, il faut prendre en compte que Twitter n'est pas le monde. C'est-à-dire que par essence, en 280 caractères, on va être plus impactant que si on a plus de temps ou si on est face à face. Et il faut aussi prendre en compte qu'une grande partie de ces personnes répondent toujours au même moment et toujours à peu près avec les mêmes éléments de langage. Il y en a qui disent que c'est des scripts, c'est-à-dire des logiciels qui font ça avec des vrais ou des faux comptes. Moi, je pense que c'est plutôt qu'il y a des groupes Telegram ou des Slack ou des Discord qui coordonnent un petit peu les choses, où on va aller publier dans un réseau social spécialisé, dans une communauté spécialisée, le tweet en question qui parle de manière négative ou neutre de Ripple ou positive, et on va aller renforcer l'aspect positif en mettant tous en même temps. Donc c'est pas forcément des bots, c'est pas forcément faux. Après, il faut comprendre que l'investisseur peu qualifié a une aversion à la perte, c'est-à-dire que s'il a mis du capital quelque part et que plus tard on essaye de lui expliquer que c'est pas le meilleur investissement du monde, il va essayer de défendre. C'est un processus psychologique relativement répandu. Il va essayer de défendre son choix pour pas perdre la face entre guillemets.
Et Ripple a été cofondé par quelqu'un d'assez célèbre dans l'univers crypto, puisque c'est Jed McCaleb. C'est notamment lui qui a conçu Mt. Gox, la toute première bourse de Bitcoin, avant de la vendre au français Marc Karpeles. Alors actuellement, Jed McCaleb n'a plus de lien avec Ripple et a préféré partir développer Stellar, un projet similaire dont on parlera un petit peu après. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi il a quitté Ripple ?
Alors, à ma connaissance... Je ne ferai pas de déclaration de là-dessus puisqu'on ne pourra pas distinguer la réalité de la rumeur. Jed McCaleb a un lien avec Ripple, n'a pas de lien avec l'entreprise Ripple, mais a un lien avec XRP puisqu'il en possède énormément. Il a une grande part du supply, de la masse monétaire. Je pense pas qu'aujourd'hui il ait la moindre influence sur Ripple et le XRP en dehors du fait d'en avoir. Donc je pense que c'est anecdotique de parler de Jed McCaleb aujourd'hui quand on évoque Ripple.
Et parlons maintenant donc de son nouveau projet Stellar. Quelles sont les différences entre Stellar et Ripple ? Parce que quand on regarde les projets, c'est assez proche.
C'est un copier-coller. Très clairement, Jed, quand Jed a quitté Ripple, il est parti avec le code. Et aujourd'hui, s'il est vrai que lors de la scission, les projets étaient équivalents, quasiment équivalents au niveau du code, aujourd'hui, Stellar a pas mal évolué, et dire que c'est la même technologie aujourd'hui, quand on regarde le code, c'est assez faux. Par contre, on est sur les mêmes principes, on est sur la même proposition de valeur. Stellar, c'est une fondation, donc à but non lucratif. Bon, Rolex est une fondation aussi, donc à relativiser. Mais on est sur les mêmes plates-bandes, bien sûr. Et c'est clairement, si une solution de type Ripple ou Stellar devait s'imposer, ça ne pourrait pas être les deux. Ce sera l'un ou l'autre, ou une troisième fois.
D'accord. Mais je ne me trompe pas en disant que Stellar est open source.
Stellar est open source, Ripple l'est à peu près.
D'accord. Et Stellar a récemment signé un partenariat intéressant avec IBM qui réunira une quarantaine de banques à travers le monde. Est-ce qu'on peut dire du coup que Stellar mène un peu mieux sa barque que Ripple actuellement ?
Alors je pense que les deux sont forts en communication. C'est-à-dire que quand on va aller cette fameuse news qui a pas mal agité le marché du XLM qui est le token de Stellar, on est clairement dans l'ancienne et encore... mais c'est plus difficile pour Ripple de continuer de faire ça, dans la politique de communication en disant « on a plein de partenariats, on est implémenté partout, on a 15 des 40 plus grandes banques chez nous ». Quand on regarde dans le fond des choses, on voit que c'est des accords de « memorandum of understanding » que je ne saurais pas traduire, mais qui sont peu engageants, c'est-à-dire... On s'apprécie, on envisage peut-être un jour un avenir pour travailler ensemble, mais plus on gratte, plus on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose. Donc dire que Stellar est sur le point d'être adopté par toutes les banques, je pense que c'est comme les gens qui disent que Ripple fait exactement la même chose. Il faut prendre un petit peu de recul.
Et
on est sur la communication.
D'accord. Et il y a quand même quelque chose d'important à souligner, c'est que les investisseurs du XRP ou donc du XLM de Stellar achètent souvent ces cryptos comme s'ils investissaient dans les actions des entreprises. Or, leurs protocoles peuvent très bien fonctionner avec des monnaies traditionnelles et il est très probable que leurs crypto-monnaies ne servent jamais à grand-chose. Pensez-vous aussi que beaucoup d'investisseurs ont une mauvaise analyse sur ces cryptos quand ils investissent dedans ?
Je ne dirais pas qu'elle est mauvaise, je dirais qu'elle est moins informée que nécessaire. C'est-à-dire que c'est extrêmement complexe, on a parlé de la XRP Army tout à l'heure, il y a vraiment... Il est difficile sur Internet de toute façon, et quand on parle d'investissement, c'est encore pire, d'aller chercher l'information et de trier les choses. Et c'est vraiment notre but à Coinos, sur la plateforme Inside ou au service de nos clients premium, de faire ce travail de distinguer le vrai du faux et d'aller chercher que parfois, des vraies solutions, il y a du vrai code, parce que Xcurrent, ça existe, Xrapid, ça existe, ne veulent pas forcément dire que le token aura de la valeur à l'avenir.
Et tout à fait personnellement, est-ce qu'il y en a un des deux qui vous semble meilleur ou pas ?
Alors, je pense, et c'est ce que je dis à nos clients, qu'on est sur les cryptoactifs qui, à mon sens, ont le plus gros rapport entre le risque et le reward. C'est-à-dire qu'il y a un risque extrêmement élevé, qui n'est pas forcément compris par les investisseurs, que le XRP ou le XLM ne soit jamais utilisé, comme tu l'as évoqué. Et ce risque est vraiment non nul. Mais dans l'éventualité où ça existe, où ces tokens soient utilisés, ou que Ripple arrive au premier plan, on peut arriver sur des fortes valorisations, ou pas. Donc un très fort risque reward.
Alors, pour le moment, le monde bancaire s'oppose pas mal à tout ce qui est crypto, mais on commence à voir quelques initiatives bouger. Par exemple, des très grandes banques comme BNP Paribas coopèrent au sein d'un consortium mondial qui s'appelle R3, qui réunit un grand nombre d'institutions financières pour développer les questions autour des blockchains, tout simplement. Alors, que pensez-vous de cette initiative ? Et n'est-ce pas plus probable que la révolution crypto des banques ne vienne pas plutôt de ça, plutôt que d'une start-up comme Ripple ?
Il y a plusieurs réponses. Je vais réagir sur BNP Paribas parce que si je peux insulter une banque, ça me fera toujours plaisir. BNP, on est sur de la pure communication sur la blockchain. C'est-à-dire que BNP, effectivement, a un partenariat est présent dans R3 qui développe les solutions Corda. Pour une banque, passer à côté de la prochaine révolution éventuelle technologique, c'est vraiment pas passer comme un acteur sérieux auprès de ses investisseurs. Et surtout, un BNP peut se permettre, j'évoque BNP, mais toutes les banques peuvent rentrer dans ces cases-là, peut se permettre un certain nombre de dépenses qui seront de la pure recherche, même si ça n'aboutit nulle part. Donc effectivement, il y a un partenariat avec Corda, mais BNP a énormément investi d'argent auprès d'IBM sur Hyperledger, a énormément investi d'argent auprès de Consensus et sa branche Enterprise je crois, a été renommé, mais sur du consulting pour faire des POC sur Ethereum. Donc, ils mettent un petit peu d'argent partout, ce qui leur permet de communiquer en interne et à leurs actionnaires. Nous avons investi tant d'argent dans la blockchain, nous sommes à la pointe, etc. Ça ne veut pas dire que BNP est prête aujourd'hui à changer son système pour les raisons qu'on a évoquées au début de l'interview. C'est très difficile, il y a une forte inertie. C'est les lois de la physique. Plus on est gros, plus il y a d'inertie.
Et quand même, du côté de la banque américaine JP Morgan, donc l'une des plus importantes du monde, on a récemment annoncé qu'on allait sortir un JP Morgan coin. Alors que peut-on dire de cette crypto-monnaie ? À quoi va servir ? Est-ce qu'elle risque pas de marcher sur les plates-bandes de Ripple ou Stellar ?
Alors c'est relativement intéressant le JP Morgan coin. Ça se base sur Corum, qui est un dérivé d'Ethereum. On est très très loin du code d'Ethereum, mais effectivement, ça vient du client Get, qui est Ethereum en Go. Bon. Donc, Corum n'est pas Ethereum. JP Morgan n'est pas un ERC-20. Le JPM Coin n'est pas un token Ethereum. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un stablecoin. Un stablecoin va être un actif numérique, un crypto-actif, qui va répliquer la valorisation d'une monnaie fiduciaire. Dans 99,9% des cas, on parle de l'USD. Pourquoi ?
Parce que le dollar.
Donc le dollar. Pourquoi ? Parce que sur le marché mondial, l'USD est roi. Donc le dollar est roi, la plupart des échanges qui impliquent ou pas les États-Unis se font en dollars, par exemple le marché pétrolier qui est assez connu. Donc s'il faut choisir une monnaie fiduciaire, on va aller choisir le dollar. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport au XRP, c'est que un JPM coin égale un dollar. Il n'y a pas de volatilité, il n'y a pas de spéculation particulière. On ne va pas acheter 100 JPM coin et espérer en avoir plus d'argent plus tard.
Juste pour situer, actuellement, le XRP vaut à peu près 30 cents et il est monté jusqu'à 3 dollars. Donc, exactement. Volatilité extrême, quoi.
Et il vient de beaucoup plus bas. Donc, il y a une volatilité qui est extrême. Sur les solutions au service des banques qu'on a évoquées, ce n'est pas forcément un problème puisqu'il y a un block time, un temps de transfert estimé à 3 à 4 secondes, si on est optimiste. Donc une volatilité sur 3 à 4 secondes, on peut estimer que c'est pas... Mais c'est toujours moins bien qu'une volatilité nulle. Même si certains diront que l'USD fluctue en value par rapport à l'euro, par rapport à la livre et ce type de choses. Donc, ce que je pense le plus probable au service des banques, c'est qu'ils vont aller utiliser plutôt des stablecoins. Puisque ça a plusieurs avantages, on a parlé de la volatilité, il faut aussi évoquer que c'est plus compatible avec leur process actuel. C'est-à-dire, échanger du vrai USD contre du vrai euro, ça c'est ce qu'ils savent faire. Échanger du euro numérique contre du dollar numérique, c'est pas si différent. Ça s'adapte. Et c'est pour moi le plus gros concurrent de Ripple, c'est pas Stellar, mais c'est plutôt les stablecoins. Et il y a des versions qui sont centralisées, donc au service des banques, comme le JPN Coin, et on va voir apparaître, on va voir l'émergence du Société Générale Coin, du BPN Coin, on a le Facebook Coin qui sera aussi un stablecoin qui va arriver, où chaque entité va générer sa propre masse monétaire. Ils le font de manière très simple, ils mettent de la monnaie fiduciaire en réserve sur des comptes en banque, et une unité de monnaie fiduciaire égale un jeton à échangeable numérique sur une blockchain. Et donc, ce qui me semble le plus probable à l'avenir pour remplacer Ripple, c'est que chaque banque ait un consortium, une blockchain privée ou une blockchain de consortium, enfin quelque chose qui leur est propre et interne, avec leur propre token, et qui ait un nouveau niveau, un layer de settlement, qui va faire la compensation entre ces différents actifs numériques. Et ce layer de settlement, pour l'instant, le mieux situé, ça reste Swift.
Donc, avec ce que vous dites, c'est marrant parce qu'on est très très loin de la révolution annoncée il y a quelques années, en mode la crypto va remplacer les banques et tout.
Alors, la crypto est une révolution sur les actifs. C'est-à-dire que c'est une nouvelle classe d'actifs qui a des propositions de réserve de valeur. Ethereum se veut un index de ce qui va être monté sur Ethereum, toutes ces dApps, tous ces services décentralisés. Après, quand on parle de monnaie fiduciaire, la monnaie fiduciaire, ça marche bien. Et puis, ça rentre dans la régulation actuelle qui a été pensée pour elle. Et faire évoluer les usages sans faire évoluer les cadres me semble très optimiste et peu réaliste.
Et quelle partie du métier de banquier pourrait être le plus touchée par la crypto ?
Le potentiel disruptif de la crypto va être dans le fait que on va favoriser la concurrence. C'est-à-dire que la vraie révolution blockchain, c'est que non pas ça va brûler les banques, comme ce qui a été annoncé au début de Bitcoin en réaction aux crises financières, etc., l'anarcho-capitalisme, tout ça. On va pas brûler les banques, par contre... Il va être beaucoup plus simple d'être une banque, ou en tout cas, si on ne peut pas être une banque d'un point de vue régulatoire, d'offrir des services pseudo-bancaires, donc du prêt, de l'assurance, etc. Et la théorie économique nous apprend que plus il y a de concurrence et plus on accède facilement à un marché, on accède facilement à la possibilité de proposer des services, plus le consommateur y gagne. Donc je pense que la vraie révolution va se placer là. Remplacer les monnaies fiduciaires, elles ont un intérêt. L'inflation, tout le monde pleure dessus, mais il y a aussi un intérêt économique. Et c'est pas pour rien que si on en veut peu, on en veut quand même un peu. Et l'objectif, par exemple, de la BCE, qui est extrêmement connu par les Français, c'est près de 2%. C'est pas moins de 2%, c'est près de 2%. Et il y a des raisons économiques à ça. Il y a même des cryptos qui acceptent l'inflation. Il y a le projet Tezos, par exemple, qui a une inflation qui est plus ou moins optionnelle, si on stake ses Tezos ou pas. Ethereum aura une inflation. Et Bitcoin est sur une autre proposition de valeur, sur la réserve de valeur, sur l'or numérique. Et donc, ça se justifie un peu plus qu'il n'y ait pas d'inflation sur Bitcoin.
Et étant donné qu'on vous a sous la main, quels sont selon vous les cryptos qui ont le plus de potentiel actuellement ?
Il faut définir potentiel.
Quelles sont vos valeurs préférées, tout simplement ?
Mes valeurs préférées sont... en fait, il y a deux grandes catégories. Elles répondent toujours au profil de l'investisseur et son aversion ou pas au risque. C'est-à-dire qu'une personne qui arrive sur le marché des crypto-actifs aujourd'hui, je vais l'orienter toujours sur Bitcoin. Puisque Bitcoin était là il y a 10 ans, et je suis prêt à parier que Bitcoin sera là dans 10 ans, et qu'il y a peut-être moins de risques et moins de rewards. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux manières de gagner de l'argent. La première, c'est de travailler, et la seconde, c'est de prendre un risque. Toute personne essayant de vous dire qu'il y a une troisième manière est en train d'essayer de vous voler. Et c'est, malheureusement, cette règle n'a pas d'exception. Donc, oui, il y a des crypto-actifs qui sont déjà une classe d'actifs très risquée, avec une forte volatilité. Il y en a qui vont proposer peut-être un rendement moindre, mais qui auront un risque moindre. Les gens qui ont plus d'aversion au risque, aujourd'hui, j'irais les tourner plutôt sur Maker, qui a une très grande proposition de valeur, le MKR token, qui est là pour générer de la monnaie fiduciaire programmable. Donc le stablecoin DAI reproduit la valorisation du dollar et c'est l'un des projets les plus intéressants. Et le Maker Token a une crypto-économie qui est relativement intéressante et bien pensée. Après, il y a de nombreux projets et j'invite les gens à rentrer en contact avec Coinos et on se fera un plaisir de les recevoir.
Merci beaucoup Marc pour votre participation à 21 millions.
Merci.
Merci beaucoup à Marc Zeller pour sa participation à 21 millions. Merci également à Ezad qui a composé le générique. Vous pouvez retrouver leurs références dans la description et les précédents épisodes sur SoundCloud, iTunes, Spotify, Deezer et YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ces plateformes, c'est ça qui contribuera à faire grandir 21 millions. Vous pouvez également me contacter sur Twitter, Grégory_Raymond, pour me suggérer le thème ou la personnalité que vous souhaiteriez entendre au prochain épisode. À bientôt !